On est en train d'essayer de décapsuler chaque verset. Ce formidable psaume qui est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première semaine, on avait vu que il est dit, le projet de Dieu pour toi sont bons. Grâce à lui, il me dirige dans des prairies verdoyantes. On avait vu combien il était important pour chacun d'entre nous de se rappeler que les projets de Dieu pour nous sont que l'on réussisse. Et ni dans l'évangile de la prospérité, mais ni l'évangile de la misère. Il y a quand même un beau projet de Dieu pour notre vie. Et pour cela, on a besoin, puisqu'il y a des périodes, notre vie est faite de cycles en fait, des cycles difficiles et de cycles faciles. Et ça ne se ressemble pas. Et chaque saison est une saison, et Dieu a toujours fonctionné par saison. Et quand le Seigneur nous fait passer par une saison un peu plus calme, il nous dit, attention, apprenez aussi à vous déconnecter. Ce n'est pas vous qui êtes en leadership, vous êtes en stress toute la semaine, vous dirigez vos équipes, vous essayez d'assurer par rapport à vos enfants, vous prenez soin d'un membre de votre famille qui n'est pas autonome, vous devez peut-être dans votre travail, puisque c'est vous-même qui êtes chef d'entreprise ou bien vous êtes responsable d'un service, vous êtes en stress tout le temps. Mais devant Dieu, repositionnez-vous. Devant Dieu, c'est lui le berger et vous êtes sa brebis. Et ça va impliquer notamment, ce qui est difficile pour tous ceux qui ont un tempérament de contrôle et de direction, en ce qui concerne ma vie personnelle, je me pose et celui qui fait l'emploi du temps, c'est Dieu. Alors, je ne dis pas que les routines ne sont pas bonnes, je voudrais juste préciser ça. Il est très important qu'on organise certaines choses. On a des responsabilités, on organise. Le temps de lecture du matin ou du soir de ta Bible, c'est important que tu le fasses de façon routine, une routinière, parce que sinon tu vas l'oublier, plier, tu vas le zapper. Mais, est-ce que vous avez fait ce que je vous avais demandé de faire, il y a de cela deux semaines? Est-ce que vous avez pris un temps avec Dieu non dirigé? Ou vous n'avez pas donné une limite de temps? Peut-être ça a duré que 3 minutes, mais un temps où ce n'était pas vous qui avez mis l'emploi du temps. Vous avez laissé le Saint-Esprit vous diriger, en disant « Seigneur, c'est toi le berger, je me pose devant toi. Tu m'attires au bord des eaux calmes et c'est toi le leader. » Est-ce que vous l'avez fait? Répondez pas. Si c'est non, je vous donne un rattrapage. Faites-le cette semaine dans ce cas-là. Je vous en supplie. Un temps hors programme avec Dieu.
Ok.
Deuxième chose, on a vu la semaine dernière que certains peuvent être fatigués très vite avec la route de la vie. Et parfois, on est des vieux dans un corps d'assez jeune. Ce qui fait qu'on a besoin aussi que Dieu renouvelle notre souffle. Il me rend des forces neuves. Vous vous en rappelez de ça? Il me rend des forces neuves. Il me redonne du souffle. Certains peut-être ont fait, peut-être une femme ici a fait des crises d'angoisse. C'est un homme, le souffle part. Il y a une promesse de Dieu. C'est moi qui gère ton souffle. C'est moi qui mets le nefesh en hébreu dans la vie de chacun. Et si j'ai dit que ton souffle revient, c'est un process. Laisse-moi faire. Lâche le contrôle. C'est moi qui redonne du souffle. Et je vais te dire pourquoi je vais te redonner du souffle, dit Dieu. Je vais pourvoir à ton souffle parce que c'est l'honneur de mon nom. Et j'ai aucun intérêt à ce que tu perdes ton souffle de vie. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que Dieu a pour vous des projets qui vont vous demander du souffle. Et c'est Dieu qui pourvoira à votre souffle. Respirez un grand coup parce que le chemin est trop long pour toi si tu ne respires pas. Je te redonnerai du souffle à cause de mon nom. Et je vous avais quitté la semaine dernière avec ce pluriel en hébreu. Il me conduit sur des pistes de justice. Justice est au singulier, les pistes c'est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul chemin. Toute votre vie ne se joue pas au pile ou face. Est-ce que c'est elle que je dois épouser ou pas? Tac, j'ai mal compris la volonté de Dieu, ma vie est gâchée. Non. J'aurais pas dû déménager, ma vie est gâchée. Pourquoi j'ai quitté la Guadeloupe, maintenant ma vie est gâchée? C'est pas vrai. C'est la notion de conduite de Dieu te demande une écoute, mais c'est le Dieu qui fait un guidage par le Saint-Esprit, c'est la version moderne, la version antique et bien meilleure du GPS, où il recalcule sans arrêt, parce que le Dieu est le Dieu des arcs-en-ciel et il accepte qu'il y ait plusieurs voies possibles. Par contre, son travail, c'est d'éviter un maximum de souffrance dans ta vie. Alors, en vérité, nos mauvais choix, des fois, ont des conséquences. On y perd notre joie, on y perd de l'énergie, on y perd du temps. Mais ça ne change rien à notre relation avec Dieu et surtout la relation de Dieu envers nous. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'on est habitué à avoir des bons points et des mauvais points. Mais ce n'est pas ça l'école de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, ton mariage est raté, ta vie est ratée, maintenant tu payes, tac. » Non. Il dit « Est-ce que tu es capable de faire tes choix et de vivre même les choix les plus difficiles ?» Dans un esprit de justice, c'est-à-dire bats-toi chaque jour pour que dans tout ce que tu fais, ça soit le plus juste. Il a l'objectif de te conduire dans la justice, que ta mentalité soit une mentalité qui corresponde au ciel. Ça te demandera de l'humilité, ça te demandera peut-être des fois moins sûr de toi, d'être beaucoup plus à l'écoute de Dieu et de te remettre en question. Parce que la justice, c'est pas toi, c'est sa justice à lui. Et que la mentalité de Dieu, et c'est tout le rôle du Saint-Esprit, nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous arrête. Encore faut-il qu'on écoute. Ok, vous étiez là la semaine dernière ? Qui c'est qui a eu les deux premières ? Ouh, il y en a qui n'étaient pas là. Bon, vous avez vu un rattrapage rapide. Alors, on va se lever et on va lire le psaume 23 ensemble. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est bien aussi. D'affirmer ce psaume pour qu'on ait tous la même version. Ça va s'afficher en version Summer sur vos écrans. Et on va le prendre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à la vidéo ? Alors, la vidéo, n'hésitez pas à tourner juste un tout petit peu plus rapide que nous. Comme ça, ça évitera qu'on fasse des bugs. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui... Je ne vous entends pas. Calme. Il me rend... Verset 4. Protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma... Oui, le bonheur, c'est bon. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, tu nous as donné ce psaume. Seigneur, c'est notre pain quotidien. Aujourd'hui, je te prie pour qu'il y ait une pensée de Dieu qui dépasse toute bonne idée humaine. Seigneur, on n'a pas besoin d'une bonne idée humaine. On veut vraiment une conduite spirituelle. Je te prie pour que ce soit cela qui soit donné comme nourriture à chacun dans ce lieu, en cet instant, personne qui écoute ce message. Fais-toi une place, Seigneur. Si on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, on ne craindra aucun mal, car tu es auprès de nous. Ta houlette nous conduit, ton bâton nous protège. Seigneur, révèle-nous ce que tu veux nous dire là-dedans, au nom de Jésus. Amen. Amen. Saluez votre voisin, votre voisine. Dites-lui combien vous êtes fiers d'être à côté de lui, à côté d'elle. Même si c'est quelqu'un avec qui vous avez traîné ces derniers temps, dites-lui quelque chose de gentil. Allez, on est parti ensemble. Verset 4, bon, c'est le plus difficile. Voilà. Autant il y a des périodes où on est dans une phase montante, là on est dans une phase descendante et c'est l'image qui s'affiche dans la vallée. Quand je marche dans la vallée. Comme vous savez que l'objectif c'est de prendre ce psaume en décortiquant chaque mot. Le mot « quand je marche » dans la version Summer, c'est « si je marche dans les ténèbres ». Je dis « oh Seigneur, s'il y a un si, ça serait cool. Ça voudrait dire qu'on pourrait les éviter. » Non, il n'y a pas de « si » en hébreu. C'est une traduction un peu libre qu'ont choisi les traducteurs de la version Summer. C'est pour ça que dans la version Second, ils disent « quand je marche ». Et j'ai regardé dans la version Chouraki, qui est écrite donc par un juif, qui essaye d'être le plus littéral, il dit « oui, je dois aussi marcher dans la... » Je dis « oh là, ça ne me va pas du tout, ça. » Mais ouais, apparemment, je suis au regret de vous annoncer que la vallée de l'ombre de la mort, vous y passerez. Et ce n'est pas exactement passé, puisque quand il y dit « marcher », c'est le verbe « yalak » en hébreu. Alors c'est un verbe qui est intéressant, pour moi, parce que c'est le mot traverser, mais il y a dedans une idée de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. C'est un petit peu comme une traversée où vous flottez, mais ce n'est pas vous qui dirigez, le bateau il part, quoi. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Il y a deux types de personnalités dans cette salle. C'est pour ça que je dis, ce psaume, il est... J'avais un débat avec quelqu'un avec qui, vous savez qu'on fait des répétitions de prédication à chaque fois pour vérifier si ce qu'on dit est exact. Et un de mes correcteurs de prédication, avant d'arriver, m'a dit, mais Yvan, est-ce que ça s'adresse, puisque tu parles souvent de leader dans ce psaume, est-ce que ça s'adresse vraiment au leader? Ou est-ce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, y compris ceux qui sont timides et qui aiment bien rester en second? Oui, possible. Mais je remarque que c'est David qui écrit le psaume et qui ne dit pas « les justes marcheront », etc. Il dit « lorsque je marche ». Pourquoi il dit « je » ? David, c'est un leader. Hein. Et c'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont l'habitude de diriger quelque chose. Et encore, quand je dis diriger quelque chose, je ne te dis pas diriger une équipe. Hein. Je dis même des fois, diriger juste ton enfant en tant que maman célibataire, c'est tout un job des fois. Hein. Mais voilà, dans cette idée... De est-ce que c'est je, c'est n'importe qui, c'est particulièrement pas facile de se laisser porter lorsqu'on a l'habitude de conduire. Qui dans cette salle préfère la place du conducteur que la place du passager? Moi, c'est mon cas. Bon, vous êtes mal, voilà. Vous, ça vous convient. Tous ceux qui lèvent la main en disant « je préfère être conducteur que passager », moi, je suis malade en voiture quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit. C'est pour vous montrer mon degré d'adversité au fait... Quand quelqu'un d'autre... Et en plus, des fois, c'est quelqu'un qui conduit très bien. Mais il faut croire que quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit, vu que j'anticipe pas exactement quand il va freiner, je... Ah, vous le faites aussi. Je freine là, dans la place passager, mais il n'y a pas de pédale ici. Quand elle arrive un peu fort ou il arrive un peu fort sur un rond-point, je suis là... Mais alors que quand c'est moi, ça ne me pose aucun problème parce que je maîtrise la pédale de frein. Mais pour peu que ce soit pas moi, ça me rend malade. Mais malade physiquement, je veux dire, je suis barbouillé et... faut pas que le voyage soit trop long, hein. Sinon, on doit faire une pause en route. Bon, là, il y en a un vrai problème, quoi. C'est lorsque je dois traverser et que ça flotte et que je descends dans la vallée, c'est l'horreur, c'est pas moi qui conduis. Alors, est-ce que tu acceptes une fois pour toutes qu'il y a des moments dans ta vie dans lesquels tu vas devoir passer sans pouvoir contrôler? Oui, tu vas devoir un peu les subir. Subir quoi, Seigneur? Ben, subir une vallée de l'ombre de la mort. Alors, je voudrais juste dire une dernière chose par rapport à cette idée-là de subir. Ça peut être... Il y a deux types de vallées terribles à subir. Les vallées physiques, quand vous êtes éprouvé dans votre corps. Ici, il y a des héros, des héroïnes. Et que Dieu vous bénisse. Mais alors, vraiment, quand vous êtes éprouvé dans votre corps. Je ne parle pas d'une grippe, quoi. Déjà, une grippe, moi, ça met dans tous mes états. Mais alors, ceux qui ont des longues maladies, moi, j'ai eu une amie avec qui j'ai parlé cette semaine, c'est sa énième opération. À chaque fois, c'est des risques pas possibles. Elle est ouverte de tous les côtés. Ça, c'est vraiment très dur. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Lorsque vous êtes éprouvé dans votre corps, avec une épreuve qui dure, c'est terrible. Mais il y a un deuxième type d'épreuve. Ce n'est pas physique, ça peut être des épreuves qui sont morales, psychologiques. Je me rappelle très très bien ce jour où une jeune fille est rentrée dans mon bureau, qui était mariée depuis plusieurs années. Elle avait construit son couple, elle était venue avec son mari d'une autre église et ça allait l'air, enfin, extérieurement, il ne se passait pas grand-chose, quoi, un couple. Quoi. Bon, ils avaient quelques embrouilles de temps en temps, mais... Et puis elle me dit, et je vois qu'elle est en stress total, et sa voix est claire, mais ses yeux ne le sont pas trop bien. Et elle me dit, pasteur Yvan, il est parti. Je lui dis, comment ça, il est parti? Et comme son mari venait d'Afrique, je lui ai dit, mais peut-être qu'il est parti voir ses parents, etc. Non, non, non. Il a pris ses bagages, il est parti. Il m'a quitté, il est parti chez une autre, dont je n'ai absolument aucune idée de qui elle est. Je ne sais pas depuis combien de temps il y avait ça. Je n'ai rien. Et je vois cette jeune femme-là qui en chute libre. Et j'aimerais pouvoir dire, t'inquiète pas, on va rebondir. Mais la vérité, au moment où elle le dit, j'ai rien d'autre à faire que de lui dire, je ne sais pas. Là, ça dépasse toute compétence humaine. Il y a un tel, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui peuvent le dire. Je vois comment Job, lorsqu'il a perdu d'abord tous ses aspects matériels, il tient le choc. Il a tout perdu. Toutes ses finances, tout s'est écroulé, tous ses comptes en banque ont été pillés, toutes ses réserves, tout ce qu'il a mis de côté, toutes les économies de sa vie, toute sa retraite, tout, il a tout perdu. Des années de boulot, tout écrasé en un instant. Mais il continue à louer Dieu. Satan vient voir Dieu et dit « Laisse-moi taper plus fort. Laisse-moi toucher à sa famille. » Il commence à perdre 1, 2, 3, 4, tous ses enfants décèdent. Déjà, si vous perdez un enfant, vous êtes fou, vous êtes folle. Vous ne pouvez plus vivre quasiment. Il a perdu tout le monde. Et après tout ça, Job dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris que son nom soit béni. » C'est extraordinaire. Sauf que vous ne lisez pas tout Job quand vous arrêtez là. Parce qu'après ça, il y a une troisième vague. C'est sa santé à lui en plus derrière. Peau pour peau, touche sa peau. Et il est atteint d'une maladie incurable, extrêmement douloureuse. Et là, il devient pour le coup, wow! Alors, vous voyez, le problème dans une descente, si c'était juste une descente, puis on relève. À Disneyland, il y en a, vous n'avez pas peur. Pas trop. Mais si c'est une descente, puis après une autre descente, puis une autre descente, et puis vous n'avez pas jusqu'à où ça va descendre. Et c'est ça qui est terrible. Et dans le problème de la vallée de l'ombre de la mort, quand je descends là-dedans, je ne sais pas jusqu'à où je vais descendre. Mais le mot hébreu, c'est vraiment descendre, puisque c'est une vallée. Une vallée, ce n'est pas en haut, c'est en bas. Et puis, vallée en hébreu, gaï, c'est escarpé au sens d'étroit, oppressant. C'est pour ça que j'essaie de prendre une photo qui correspond. C'est l'idée de descendre dans un truc où ça se rétrécit. Donc vous avez une pression qui est du haut vers le bas, puisque vous êtes en train de descendre dans une vallée, vous avez une baisse d'altitude, mais d'un autre côté, c'est une gorge resserrée. C'est-à-dire plus vous avancez vers le bas, et plus vous sentez les parois qui se rapprochent de vous, c'est comme si vous êtes contraint par le haut, mais vous commencez à être écrasé par les côtés. Ça, c'est ce que j'appelle une vallée de l'ombre de la mort. Il y a des épreuves qui sont dures, mais quand vous vivez une situation où vous n'avez plus de maîtrise sur rien, ça, c'est les vallées les plus difficiles. Certaines choses ne dépendent pas de moi. Vous avez peut-être bâti un coup pendant des années. Vous ne voyez rien venir. Vous êtes en chute libre. Peut-être une autre personne, c'est quelque chose de physique. Mais le fait de ne pas ressentir jusqu'à où ça va descendre, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Alors, je viens sur le mot, c'est l'image d'après, tsalmavet. Ça ne vous surprendra pas que sur les... Il y a un peu moins d'une vingtaine d'occurrences du mot tsalmavet dans la Bible. Le livre de Job, à lui tout seul, en a plus de la moitié. C'est-à-dire que Job est celui qui, dans la Bible, lorsque son livre est écrit, écrit plus de la moitié des fois. Le mot de Tsalmavet, c'est dans le livre de Job. Et dans cette... Alors, Tsalmavet, c'est un mot hébreu composé de deux mots, le mot mort et le mot vallée. Et le mot ombre. Alors, je voudrais revenir sur ce mot ombre. Est-ce que vous avez... alors, ça peut être ombre, obscurité, ténèbres, détresse, danger. Parfois, la souffrance est tellement forte, votre vie devient tellement sombre que vous voulez, on est très bizarre, on veut mourir. Plutôt que de vivre dans l'ombre de la mort, on veut mourir. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'essaie de vous faire court une histoire longue, parce que pour en arriver à un point où vous voulez mourir, c'est que souvent, il y a une histoire assez longue avant. Et pour moi, la vie avait tellement perdu son sens. J'étais tellement choqué par ce qu'il m'était arrivé. J'étais vraiment en dépression nerveuse. Et encore, ça ne faisait pas beaucoup de mois. Je pense à ceux qui ont vécu des longues maladies qui ont duré des années. Vous êtes des héros, des héroïnes. Moi, au bout de quelques mois, j'étais prêt à demander la mort. Et j'ai demandé la mort à Dieu. Pourtant, j'étais chrétien. J'aimais le Seigneur. Je me suis retrouvé sur un banc, je me vois encore, je marche, je me lève du banc, et il y avait un chant quand j'étais petit qui disait, là-bas les anges dans la lumière m'accueilleront. Et j'ai dit, Seigneur, franchement, au jour d'aujourd'hui, je préférerais être mort. Alors, vous savez, quand un homme dit ça, c'est mauvais. Hein. Les hommes font pas beaucoup de tentatives de suicide, mais ils se ratent moins aussi. Et j'ai pas fait de tentative de suicide, Dieu m'a arrêté avant, mais j'étais vraiment, vraiment au fond. Et comme je ne voyais pas jusqu'à où ça allait descendre, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Ça m'avait. Et c'est bizarre, l'ombre me faisait tellement peur que je préférais la mort. Et je me rappelle à ce moment-là, je suis retourné dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur le mot justement de Tsalmavet, écrit dans le livre de Job. On le voit au chapitre 38 du livre de Job. Et c'est la fois où Dieu va parler à Job. Ça faisait des mois que je disais, Dieu, parle-moi! Dis-moi quelque chose là-dedans, je deviens dingue! Et le ciel était silencieux et tout d'un coup, Job, vous vous rappelez les amis de Job, ils ont disserté, ils ont essayé d'expliquer, et ça a pris des mois ça. Il a eu aucune révélation de Dieu pendant des mois. Et tout d'un coup, Dieu parle enfin. Et Dieu m'a parlé, moi, ce jour-là. Il me dit, le verset premier, alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, qui obscurcit mes desseins avec des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te questionner et puis tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Il y a un peu d'ironie là-dedans. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qui essaye d'obscurcir mes desseins? Est-ce qu'il n'y a pas déjà suffisamment d'ombre dans ta tête pour que tu en rajoutes? Et que tu me projettes sur moi l'ombre qui est dans ta tête? Je vais un petit peu plus loin. Il est dit au verset 10. À propos de l'océan, quand je lui imposais ma loi pour briser son élan, est-ce que tu y étais? Quand je plaçais des verrous et des portes en lui disant, c'est ici que tu iras et pas plus loin, ici s'arrêteront tes flots impétueux. Yvan, tu es au milieu de la tempête, tu es au milieu de la vallée, tu maîtrises rien, tu as l'impression que c'est sans fin, et pourtant je suis Dieu. Et avant et après, je maîtrise ce que je suis capable. Si je suis capable de fixer des limites aux océans, à combien plus forte raison je serais capable de fixer des limites à cette vallée que tu es en train de traverser? Et en fait, puisque de toute façon, ça ne dépend pas de toi, ne prétends pas pouvoir maîtriser quelque chose là-dedans. Ne me critique pas. Ne rajoute rien, n'enlève rien. Mais juste réalise que je suis Dieu avant, je suis Dieu pendant, je suis Dieu après et je maîtrise les extrémités. Tu n'es pas né à l'époque où je faisais la terre et j'avais déjà ma méthode pour fixer les limites. Et c'est là qu'il dit le plus haut psalmavet, puisqu'il dit, les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des ombres? En fait, ce que Dieu me disait, c'est tu vois l'ombre, mais ne me dis pas que tu vois la mort. En fait, je n'étais pas mort à ce moment-là. Je vivais mortellement. Ma vie était mortelle. Mais en vérité, je n'étais pas mort. Et des fois, il y a des personnes, je soupçonne toi ou ton voisin aujourd'hui, des fois d'avoir plus peur de l'ombre et devenir fou, devenir folle à cause de l'ombre. Plus que de la mort. Alors essaye de prendre un tout petit peu cette distance que Dieu essaye de dire. Attention, confonds pas l'ombre et la mort. Puisque il y a une chose que je voudrais te dire à propos de ne confonds pas l'ombre et la mort. L'ombre fait terriblement peur, mais elle n'a pas de pouvoir sur ton corps, sur toi. En fait, si jamais vous passez dans un endroit, une rue qui est très mal éclairée, vous avez un sentiment de froid. Rien que le fait d'être dans l'ombre, votre ressenti change. En fait, quand vous êtes quelque peu malade, barbouillé, je ne sais pas si quelqu'un a une grippe, etc., que vous avez la tête qui tourne dans ces moments-là, tous vos sentiments sont, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais ils sont faussés. toute votre perception du monde. Certains disent qu'ils ont l'alcool qui est bon et puis d'autres qui ont l'alcool mauvais. Moi, j'ai la souffrance mauvaise. Moi, la souffrance me rend mauvais. Du genre, si jamais je suis vraiment malade, viens pas avec une phrase toute faite, mais t'inquiète pas, Yvan, je prie pour toi, Dieu avec toi. Je dis, Dieu, il est avec moi, mais toi, va-t'en. J'ai pas la souffrance bonne, voilà. Ce jour-là, oubliez votre pasteur, il est juste redevenu très, très humain. Et ce qui me rassure, c'est que Job, mais bon, lui, il était 10 fois plus éprouvé que moi, il y a un moment où il a dit, je maudis le jour de ma naissance. Donc, il y a des moments où la colère à l'intérieur est tellement forte que oui, c'est vrai, on peut dire un peu des bêtises quand même. Et je remarque d'ailleurs que Dieu n'a rien reproché à Job. Alors que les amis de Job, qui eux n'avaient pas souffert et qui ont fait des grandes phrases philosophiques, qui se sont fait tacler derrière, heureusement que Job a prié pour eux. Donc, Tsalmavet, l'ombre de la mort, ne pas confondre l'ombre et la mort. Donc j'étais avec cet ami, c'était cette semaine. J'ai pas envie, moi, qu'un pasteur m'explique ce que c'est que la vallée de l'ombre de la mort, parce que des fois, ils l'ont pas vécu. J'ai pas envie de phrases toutes faites d'un homme religieux ou d'un responsable d'église. Cette jeune femme qui a passé tellement d'opérations, qui a passé tellement de mois dans un hôpital, pour moi, elle est crédible. Et donc, je lui dis, mais attends, moi déjà, je comprends pas comment tu as survécu. Et elle m'a vraiment expliqué, elle me dit, écoute Yvan, je ne dis pas que c'était facile, c'était horrible lorsque j'avais toutes ces opérations, ces poches de partout, que je me sentais même plus femme, que j'étais tout juste perforée de partout. C'était très compliqué. J'ai dit, t'as plus rien, t'es entre les mains des médecins, tu ne maîtrises plus rien du tout. Elle me dit, je me rappelle que j'allais à un scanner, mais elle me dit, mais je me rappelle très bien le jour où j'allais au scanner. Et dans la zone d'attente du scanner, sur mon brancard, au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, j'ai vécu quelque chose d'inexplicable et que tu ne peux pas expérimenter, et c'est pour ça que tu as peur. Mais moi qui l'ai vécu, je peux te dire que je me rappelle très bien l'endroit où, sans avoir prié particulièrement, j'ai senti une visitation de Dieu. Une présence du Saint-Esprit, une clarté au milieu d'un moment horrible. Et ce moment reste pour moi un moment ineffable, un moment merveilleux de ma vie. Ou alors que je passais par le pire du pire, la présence de Dieu, prenant le contrôle sur tout mon ressenti, m'a fait découvrir un aspect de Dieu que je ne connais pas et que tu ne peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Et je lui dis, mais quand même, c'est chaud. Elle me dit, mais si c'est à revivre, je le revivrai quand même. Elle dit, waouh, t'es crédible alors. T'es crédible. Elle me dit, parce que la douceur, d'expérimenter la douceur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu dans ce moment-là, extraordinaire. En fait, pour être tout à fait honnête, l'ombre et la mort, il y a une différence parce que l'apôtre Paul, qui est passé par la mort, puisque on soupçonne que quand il dit « je connais un homme qui, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, est monté jusqu'au... » Vous connaissez troisième ciel, etc. Et qu'il a vu des choses qu'il n'est pas possible de raconter. L'apôtre Paul, il a été tabassé. Plus que ça, il a été lapidé. Il a été laissé pour mort. C'est très possible qu'il ait fait une expérience de mort imminente. Et il dit clairement que, et c'est incroyable qu'il dise ça, il dit, pour moi, si ça tenait qu'à moi, la mort est un gain. Je préfère partir parce que je sais ce qu'il y a derrière. C'est étonnant. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on a peur. Mais je pense que le moment le plus difficile, c'est pas le bout du passage, vous voyez, c'est la descente qui est difficile. Et regardez cette image d'après, l'ombre de la mort, voilà ce qui se passe juste après. C'est à peu près la même image. La seule différence, c'est qu'il y a de la lumière. et que ça se réélargit parce qu'on est en train de sortir du tunnel. Et cette « je ne crains aucun mal », dites-moi, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut quoi ? Vous avez déjà vu de l'ombre sans soleil ? En fait, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut deux choses. Il faut le soleil et un obstacle entre le soleil et vous. Et c'est ça qui nous rend dingue dans une période de Tsalmavet. C'est qu'à ce moment-là, notre perception du monde est floutée et noircie. Et ça nous, c'est paniquant, c'est anxiogène, c'est angoissant. Et lorsque je regarde, je vois l'obstacle partout. Et je ne vois plus mon soleil. Je ne vois plus le Dieu, mon soleil de justice. Est-ce que ça veut dire que le soleil n'est plus là ? Non, il est là. Vous avez pris l'avion des fois ? Ah, c'est incroyable ça. Prenez l'avion à Charles de Gaulle. Ça pleut des cordes. Vous montez, vous dites, je suis même pas sûr que c'est peut-être mon dernier jour, Seigneur. Je pars. Et vous allez un tout petit peu plus haut et sur le hublot. Mais alors, en deux secondes, hein, tout sèche, vous arrivez à 10 000 pieds d'altitude, toc, grand bleu. Je me dis, c'est quoi qui est, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que la pluie était vraie ? Oui, la pluie était vraie. La tempête était vraie. Mais le ciel bleu est vrai aussi. C'est juste une perception, vous voyez ? C'est plus facile à entendre et peut-être à dire qu'à vivre. Hein. Mais c'est là la clé. Et quand cette jeune femme, Elisa, me disait ça, waouh ! Je lui ai dit, mais elle me dit, non, mais Yvan, j'étais dans l'autre dimension. Ça peut être un peu bizarre, hein, mais je suis dans le soleil. Mon corps est dans l'ombre, mais ma tête est au soleil. Wow. Je ne craindrai aucun mal. Il y a une différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Il y a une différence. Vous savez, ce n'est pas dans les moments... Des fois, on dit, oui, le chrétien, il a moins de problèmes. Non, il a autant de problèmes. La seule différence, c'est sa perception doit être plus haute. Et il sait que Dieu gère. Et regardez ce qui se passe. Il sait qu'il s'est passé quelque chose. C'est annoncé prophétiquement dans Ésaïe. Ça va se réaliser avec Jésus. Jusqu'à Jésus, il y avait quand même un pouvoir des ténèbres sur la terre. Et ce qu'il est écrit dans Ésaïe 9, verset 1, ça va s'afficher sur vos écrans. « Et le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par les ténèbres de l'ombre de la mort. » En fait, l'arrivée de Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Et elle sera enceinte et elle donnera naissance à un fils et vous l'appellerez Immanuel. Dieu est avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il s'est passé quelque chose à la croix. Il s'est passé quelque chose à la croix, mais pas dans le visuel. Bon, sur la terre, ça a un peu tremblé, vous vous rappelez le texte ? Il est dit que le voile du temple, d'ailleurs, s'est déchiré en deux. Il y a eu un tremblement de terre. Le ciel est devenu tout sombre, tout s'est obscurci. Mais en fait, ce qui était visuel sur la terre, ce qui était perceptible sur la terre, c'est parce qu'en fait, il y avait un combat monstrueux dans le ciel, dont la terre était juste une ombre. Il y a eu le combat entre les puissances de l'enfer et de la mort, et principalement la puissance de la mort. Parce que jusque-là, Satan avait les clés et il maîtrisait ça. Et à la croix, il est dit, il a brisé le pouvoir de la mort. Et quand le Christ, le troisième jour, après 48 heures de fight, ouvre le tombeau. C'est la fin du combat. Et il est dit qu'il a dépouillé les autorités spirituelles. Il les a livrées publiquement en spectacle à la croix, puisque c'était l'arène dans laquelle a eu lieu le plus grand des combats. Et c'est là où il a repris les clés, en fait. Les clés de la mort. Aujourd'hui, la mort a perdu sa puissance. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, que croyant, j'appréhende le goulot là, dans lequel on doit tous passer un jour physiquement. Mais, ne te trompe pas, le plus difficile, moi je dis, ouais, j'ai pas envie de ce truc là, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas là que c'est le plus dur. Parce que quand tu es dans le tunnel, tu vois déjà la lumière. Hein. C'est la descente qui fait peur. Je crois que des fois, c'est plus dur de vivre avec un cancer que de mourir. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Pour un inconverti, le plus dur, c'est de mourir. Pour un chrétien, c'est le cancer. Parce que ça ronge nos forces extrêmement dur. Mais une fois qu'on passe, qu'on arrive vraiment, c'est juste mon corps qui s'arrête, mon âme, mon esprit, puis ça part au ciel. Il y a une présence de Dieu, il y a une conduite. Il dit, je serai avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais je vous lâche. Je serai avec toi. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce qu'il arrive à dire. C'est prophétique, le psalmiste. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Car, c'est l'image d'après. Car tu es avec moi. Tu es près de moi. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Il y a un pasteur qui est spécialiste de l'hébreu, Jean-Marc Taubois. Il y a quelques temps, il nous a un séminaire. Puis il nous expliquait que dans ces genres de vallées, c'est tellement escarpé que des fois, c'est juste la brebis qui peut marcher, même pas le berger. Et le berger, des fois, prend un chemin juste légèrement plus haut pour contrôler que toutes les brebis passent et qu'elles passent en sécurité. Et donc, en fait, les brebis, des fois, ne le voient pas, mais il est là, il est juste 4 mètres plus haut. Et David le sait quand il écrit le psaume. Et il dit, je sais que tu es près de moi. Est-ce qu'il dit, je sens que tu es près de moi? Mais non, parce que quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu sens pas, enfin, tu sens n'importe quoi en fait. Tu peux sentir la présence de Dieu, mais 30 secondes après, tu ressens une oppression démoniaque terrible. Et ton ressenti est tout faux. Je ne sais pas comment vous le dire. Quand vous avez la tête qui tourne, rappelez-vous la dernière fois où vous avez eu un mal de tête, mais tel que votre tête, elle tournait dans tous les sens. Moi, je sais ce que j'essaye de faire dans ces cas-là, c'est j'essaye de fixer au moins un point qui ne bouge pas. Juste un truc qui est sûr. Ça ne peut pas être mon ressenti parce que mon ressenti est faux. Donc, j'ai besoin de fixer quelque chose de sûr qui ne bouge pas. Et c'est pour ça que le psalmiste prend la peine d'écrire. Il dit, je sais. Pas je sens, je sais que tu es près de moi. Et ça, c'est un fait, c'est une certitude, ça ne bouge pas. Oui, mais Seigneur, je ne te ressens pas, je ne sais pas si tu es là. Et puis, est-ce que tu ne m'as pas lâché Ce sentiment, il y en a un qui l'a vécu une fois. C'est arrivé une fois. Écoutez bien ça. Il y a une fois, quelqu'un qui a été lâché par la présence de Dieu. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Et ça s'est passé pendant une durée où, à la croix, Jésus, en agonie, dans ses dernières secondes, va dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est une phrase plus qu'une question à Dieu. Je pense que c'est une question à toi, à moi. Je pense qu'il y a un moment où Jésus dit, est-ce que ça vaut la peine d'être séparé de Dieu pour eux? Et il y va jusqu'au bout et il meurt. Parce que si Dieu abandonnait Christ à ce moment-là, c'était pour couper définitivement et faire un jugement sur tes péchés. C'était pour toutes tes fautes qu'à un moment Christ a été abandonné. Mais s'il a souffert par la croix, il a ouvert, nous dit le livre d'Hébreu, un chemin définitif et un accès au ciel. Et il a dit plus jamais. Ça n'arrivera. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu comprends ça? Et j'arrive à la fin. On va conclure. Oui, l'ombre, elle est plus grande que toi. Mais le soleil est plus grand que l'ombre. Hein. Mais le soleil est plus grand que l'ombre. En fait, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Pour ceux qui vivent aujourd'hui en Syrie ou en Irak, qui sont mis à mort, il est dit, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort en longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, la vallée là, ni aucune créature, parce que ces endroits-là sont habités, mes amis. C'est ça qui nous rend dingue. Des fois, il y a des oppressions démoniaques dans ces endroits-là. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il a été tellement tabassé, tellement fracassé. Alors, il y a deux choses. Je vous quitte là. Deux choses. Est-ce que c'est possible de mettre l'image d'après ? Il dit, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Je ne sais pas si en sixième, on étudie toujours l'Égypte. Moi, à mon époque, on étudiait l'Égypte. Vous avez fait des dessins d'un pharaon. Ne me lâchez pas, là, si c'est la fin. Le pharaon, il a quoi dans ses mains ? Un sceptre, ouais. Bah, c'est ça, le sceptre du pharaon. En fait, c'est le point commun. Est-ce que vous savez que les Hyksos, c'était des pharaons, mais qu'ils étaient bergers ? Et c'est de là que vient la notion de sceptre. Regardez. Vous savez, c'est comme un bâton et recourbé. Et c'est le symbole en Égypte. Vous savez, la clé d'Égypte, ça vient de là aussi. Pourquoi ? Parce que c'est l'autorité. Et le bâton qu'a le pharaon, c'est le bâton de la conduite. Parce que le berger, avec ce bâton, donne l'ordre de marcher. Et c'est la prévision de Dieu. Il a une direction pour ta vie. C'est pour ça qu'il dit « me conduit ». Et j'ai regardé en hébreu, c'est vraiment ça. En fait, en hébreu, dans le mot « houlette », il y a le mot « conduite ». C'est automatique, en fait. Pour nous, en français, il faut deux mots, mais en hébreu, il n'y en a qu'un. C'est automatique. Parce qu'ils savent que le berger, c'est avec ça qu'il dirige. Parce que Dieu a un temps d'avance. Lorsque toi, tu es dans la vallée sombre, lui, il est déjà en train de voir le soleil derrière. Et du coup, quand il te dirige, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a autorité sur ta vie, il a autorité sur les circonstances, il a un temps d'avance, il a calculé les risques, il a un but, ta souffrance n'est pas gratuite. Et dernière chose par rapport à ça, regardez, ce truc rond là au bout, c'est quoi ? Non, pas le bâton. L'image d'avant. Le truc rond dans la houlette. On va rester sur les brebis là pour l'instant. Vous voyez cet arrondi là ? C'est pas un arrondi avec un pic, c'est un arrondi qui est très doux. C'est pour récupérer, en cas de panique, la brebis qui part. Ok ? Alors, si je disais que là où est Olga, il y a une bombe sous sa chaise, au milieu de la salle, là, là. Non, vous allez me dire, on est tous spirituels, on va chanter « Plus près de toi ». C'est pas vrai, vous allez partir dans tous les sens. Il y en a une majorité qui va partir vers l'escalier. Ceux qui sont un peu plus filous parce qu'ils se disent qu'il y aura moins de monde dans l'institut de secours, va sauter par l'institut de secours. Et puis s'il y a un gars qui est vraiment flippé et qui se prend pour un grand artiste de sport, il va sauter par la fenêtre. Mais on risque de partir dans tous les sens comme des brebis sans berger. Même moi. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une houlette, une technique que Dieu fait. Dans la vérité, c'est qu'on ne passe pas par l'épreuve en même temps, mais on panique tous dans l'épreuve et on est susceptible de se barrer en disant « Dieu, t'es où ? Je pars !» Et du coup, la houlette, tac, ça nous ramène dans un moment où on partirait et pour le coup, on se mettrait vraiment en danger. Parce que si la brebis, au moment où elle passe par la vallée de l'ombre de la mort, elle commence à taper dans les parois, là, pour le coup, c'est vraiment dangereux, en fait. Dans sa tête, c'est pareil, parce qu'elle est déjà paumée dans sa tête. Mais là, elle va passer de l'ombre à vraiment la mort. Or, ce n'est pas le but de Dieu parce que la mort est terminée. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? C'est terminé à la croix. Et tu vas vers le ciel. Et maintenant, regardez l'autre. C'est le bâton, cette fois-ci. Ah, ce n'est pas pareil, il y a un arrondi, mais ça n'a pas le même but. Parce que ça, c'est pour les loups. C'est pour les lions. C'est pour les bêtes sauvages. C'est pour les mangeurs de brebis comme toi. Et c'est pour ça que le berger, il a un bâton en plus d'une houlette. Mais ça, c'est pour le combat, mes amis. Et c'est pour ça que c'est très dur au bout. Et c'est souvent du bois d'olivier, hyper compact. Prenez un coup de ça. Heureusement que le berger ne tape pas les brebis avec le bâton. On aurait tous des côtes cassées. Et c'est encore une fois, ne vous trompez pas. Vous savez pourquoi Job, à un moment, était en train de dire des bêtises sur Dieu ? Parce qu'il a cru que les coups qui lui tombaient dessus, c'était Dieu qui le frappait. Et les amis de Job ont été condamnés par Dieu parce qu'ils ont dit « Certainement, Job, tu as péché et c'est Dieu qui te fait mal, etc. » Et du coup, alors que Dieu était dans une attitude de protecteur et mettait des limites à la souffrance de Job, dans sa tête, Job a pensé un moment que Dieu était en train de le détruire. Et c'est très dangereux lorsque vous confondez la houlette et le bâton. Ok ? Celui qui dirige, votre berger, va utiliser la houlette pour vous récupérer. Le bâton, c'est pour les loups. C'est autre chose. Et pour tout vous dire, et je termine là-dessus, le bâton, il est allé au combat. Ce n'est pas un berger qui dit, allez, on va en sacrifier trois, les trois filles, là, allez devant, là, puis après, il n'aura plus faim. Non, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, quand il est parti à la croix, et qu'il a été cloué sur le bois, et c'est la même notion, hein. Vous vous rappelez le bâton du serpent d'airain qui symbolise la croix, ce bâton, et c'est sur la croix, il a été crucifié sur le bois. Parce qu'à la croix, le combat, c'est lui qui l'a mené. Excusez-moi, qui c'est qui a porté une couronne d'épines ici ? Qui c'est qui a été flagellé de combien c'était 40 coups moins 1 ? Qui c'est qui a connu ? Regardez la passion du Christ et puis on en reparle. Regardez le film là. Et on en reparle si vous arrivez au bout du film. Parce que honnêtement, moi j'ai eu du mal. Quand vous réalisez le niveau de ce qui s'est passé. Et là, vous n'avez que le combat physique. On ne vous voyait rien du combat spirituel dans la passion du Christ. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé aux cieux. Et la plus grande souffrance de Christ, lorsqu'il a eu des grumeaux de sang qui sortaient de son front, il n'y avait même pas de souffrance physique encore. C'est, il était simplement en train de prier à Gethsémané, tellement il y avait une oppression et des noirs nuages spirituels autour de lui. Et donc, ne vous trompez pas. La croix, vous n'allez pas la revivre, mes amis. Il a payé une fois pour toutes. Il est dit qu'il est le grand prêtre qui a ouvert le rideau du temple. Il est rentré maintenant. Et c'est la seule chose qui nous est dit dans Hébreux, c'est que puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a été capable de souffrir à ce point, il peut secourir ceux qui sont éprouvés par rapport à la souffrance physique. Ce n'est pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est pour les êtres humains, la descendance d'Abraham, qu'il vient en aide. Waouh! Et il a partagé leurs conditions pour réduire à l'impuissance la mort, le pouvoir de la mort. Quand tu prends la Sainte Cène, on va prendre la Sainte Cène dans quelques instants. Quand tu prends la Sainte Cène, je vais demander aux personnes désignées d'ailleurs de venir sur le devant, les hommes et les femmes qui ont été désignés pour la Sainte Cène. Venez maintenant, tout de suite, on se lève. Mais chacun, écoutez ici. Lorsque l'on prend la Sainte Cène, il est dit de faire quoi ? De s'examiner soi-même. Pourquoi ? Parce que celui qui prend le pain, le fruit de la vigne, proclame quelque chose. Ce n'est pas un rite, une routine seulement. Quand tu prends la Sainte Cène, tu dis, tu annonces la mort, mais tu parles du combat qui a eu lieu, et la résurrection du Seigneur. Et tu dis, voilà, je sais que mon sauveur, le bon berger, est mort à la place à mener avec le bâton le combat pour que moi, je n'ai pas besoin de combattre. Et lorsque je prends le fruit de la vigne qui symbolise son sang, je symbolise que c'est fini, tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter aux souffrances de Christ. Il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue reconnaîtra que Jésus est Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce qu'il y a trois choses. Sa présence, il est auprès de moi, est indiscutable. Elle n'est pas ressentie, mais elle est indiscutable. C'est un fait et c'est un point fixe. Deuxième chose, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a sa houlette qui me récupère en cas de panique et qui me conduit parce qu'il a un temps d'avance et son autorité qui est en jeu. C'est une vérité et c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que si jamais le combat venait à affronter un loup, c'est pas moi qui vais au-devant du loup, c'est lui. Il est armé et il est prêt et à la croix, il a gagné le combat. Et désormais, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. On va fermer les yeux ensemble. J'ai une certitude. Mon Dieu dirige. Mon Dieu protège. Mon Dieu est présent. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne, sans trouver de ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Il les fit sortir de l'ombre de la mort. Il rompit les liens qui les retenaient. Est-ce que tes liens sont rompus parce que c'est le projet de Dieu? Je crois qu'il y a quelqu'un qui, dans cette salle, et laisse des pensées de mort rajouter de l'ombre dans sa tête. Et Dieu te dit, je t'en supplie, ne rajoute pas de l'ombre à l'ombre. Je viens, et ce message a un objectif, c'est que tu puisses vraiment rompre les liens psychologiques de mort qu'il y a dans ta vie, dans ta tête. Et que tu dises non. Mon Seigneur a vaincu la mort. Je ne craindrai aucun mal. Toute personne qui s'est engagée avec le Christ, qui le reconnaît comme son berger, c'est-à-dire qui a accepté le leadership de Dieu dans sa vie, lève-toi à ta place maintenant. Si tu t'es engagé par les eaux du baptême, tu t'es mouillé pour Dieu, lève-toi maintenant. Et partage le symbole le plus fort qu'il existe dans toute la chrétienté, qu'il existe parmi tous les êtres humains qui ont confessé le nom de Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce symbole, c'est le symbole de la Sainte Cène par lequel il est dit, vous allez vous rappeler en mémoire de moi ce qui s'est passé à la croix et combien la mort a été vaincue. Si tu n'es pas prêt, tu restes assis. Aujourd'hui, je te pose une question. Donne-moi une raison pour laquelle tu n'es pas mouillé pour Dieu. C'est quoi la crainte qui t'empêche de t'engager avec Dieu? C'est quoi la crainte qui t'empêche de dire « L'Éternel est mon berger » Le baptême, c'est quoi? C'est de s'engager dans les eaux où on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais que je passerai un jour par des vallées difficiles, mais je ne craindrai aucun mal car il sera près de moi. » Lorsque tu t'engages avec Dieu par le baptême, il se passe quelque chose et j'interpelle vraiment toute personne qui aujourd'hui est assise sur sa chaise. Je ne suis pas du tout dans le jugement, je ne suis pas en train de dire c'est mal. Au contraire, c'est très honnête de ta part, reste assis. Mais si tu restes assis toute ta vie, tu perds ta vie. Si tu restes assise toute ta vie, tu perds ta vie. Du moins, tu vas passer à côté de ce leadership que Dieu veut dans ta vie. Ce leadership t'apportera de la sécurité. Ce leadership t'apportera de l'assurance. Ce leadership t'apportera l'humilité. C'est lui qui dirige et c'est pas toi. On prend ensemble le pain et le vin.
Ta sainte Yeah.